Worthy sir. Amen.
Eh bien, ce matin, j'ai une confidence à vous faire.
À l'effet que j'ai égaré mes lunettes. Celles que je porte aujourd'hui ne sont pas les bonnes. Alors, soyez indulgents envers votre serviteur. Déjà, si je commence à lire la parole dans ma tablette, parce que j'ai pris cette Bible-là, croyant que je pouvais lire avec ces lunettes, et je ne réussis pas. Est-ce que ça va, frères et sœurs? À ce moment-là, je serai obligé de lire dans la tablette. Et j'ai d'autres Bibles à la maison que si c'est elles que j'avais, j'aurais pu lire avec ces lunettes-là. Donc, si je vous donne quelques ratements par rapport à mes notes, eh bien, ça ne vient pas de moi totalement. Vous savez, il y a des circonstances comme ça qui arrivent pour nous enseigner des choses. N'est-ce pas, frères et sœurs? Je n'ai pas doute que le Seigneur a des choses à m'enseigner. Le Seigneur est en train de me dire que les problèmes de lunettes sont plus importants que je peux le penser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois davantage me rapprocher du Seigneur. C'est comme ça que j'interprète, je décode. Eh bien, cette situation, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous allons lire la parole à travers cette tablette. Nous allons prêcher sur un texte presque méconnu. Ah, c'est pas affiché encore, ok. Alors, un texte presque méconnu de l'Assemblée. Nous allons prêcher sur Jean chapitre 2, hein, frères et sœurs, versets 1 à 11. Est-ce que tu peux le mettre pour nous, Dodley? Alors, un texte presque méconnu. C'est vraiment les francs lecteurs de la Bible qui connaissent ce texte-là. Alors, voilà. Nous allons continuer à enseigner sur la réalité de la gloire de Dieu. Nous sommes peut-être à 3 messages. Et nous en avons beaucoup avant de prendre le deuxième aspect de la thématique centrale. Le topic étant la gloire de Dieu. Je vais continuer à vous entretenir sur la gloire de Dieu. Jean chapitre 2, versets 1 à 11, va être le texte à considérer aujourd'hui. Vous continuez à parler de la réalité de la gloire de Dieu. Et je lis pour vous. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destiné aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dès le Seigneur, bénir sa parole pour la plus parfaite édification de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La réalité de la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de se questionner par rapport aux miracles rapportés dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, je vous donne quelques indices. Il y en a deux. Pour savoir si un miracle a eu lieu. Ou alors, pour savoir dans quelle catégorie d'événements, de faits, on peut ranger un miracle. Un miracle, du moins les miracles du Seigneur ou les miracles rapportés dans la Bible, n'est pas un fait légendaire. Ce n'est pas une réalité fabuleuse. Nous le savons parce que les miracles que nous trouvons dans la Bible, les miracles du Seigneur, s'inscrivent toujours dans un temps donné. Et ils s'inscrivent toujours dans un lieu donné. Ce qui fait de ces miracles des faits d'histoire. Ce sont des faits d'histoire, des faits historiques, mais en même temps, ce sont des faits spirituels. Comme Jésus. Jésus est le Jésus historique. Il est aussi le Jésus spirituel. Il est l'homme historique, il est l'homme spirituel. Alors, c'est cette nuance qu'il faut saisir quand on veut comprendre la personne du Christ et également les actes, les œuvres du Christ. Et le texte nous dit clairement, 3 jours après, donc le paramètre temporel entre en ligne de compte dans cette histoire. Et c'est même précis dans ce cas-là. Dans d'autres cas, c'est un peu moins précis, mais ici, c'est clair, c'est précis. 3 jours après, c'est-à-dire après les événements rapportés en haut, au chapitre premier, dont l'appel de Philippe et de Nathanaël au verset 43 à 51 du chapitre premier, 3 jours après. Et la Bible donne des précisions, eh bien, sur l'événement. Il y eut des noces. Et la réalité est là. Il y avait un festin, il y eut des noces. Et les noces ont eu lieu à Cana en Galilée. Donc, nous avons des indications. Cana en Galilée correspond aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur recherche personnelle, un peu plus tard, ou qui sont déjà allés là, et aller loin dans leur recherche. Et Cana correspond aujourd'hui à un petit endroit qui s'appelle Kibé Cana. Et dans le Cana qui est dans Kibé Cana ne s'écrit pas comme le Cana que nous trouvons dans Cana en Galilée et dans les temps modernes. C'est Cana avec un Q. Et c'est un coin aujourd'hui inhabitée, ce qui renforce l'idée que le miracle que Jésus va opérer est un fait d'histoire. Il est situé à environ 15 kilomètres du nord de Nazareth. Et le texte nous dit, la mère de Jésus était là. Alors nous comprenons que c'était un mariage extraordinaire. Si le Sauveur est invité avec ses disciples et sa mère était là, c'était un événement d'une grande portée. Le mariage en soi est un événement d'une grande portée dans la Palestine et de l'époque. Mais lorsque la mère du Sauveur est là et le Sauveur est là, nous comprenons que c'était d'autant plus grandiose. Et le verset 3 nous dit « Le vin ayant manqué, le vin en est venu à manquer. » Le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alors, le vin s'épuise. On ne sait pas dans quelle sorte de récipient le stockage de vin a été fait. Mais la parole de Dieu nous indique ici qu'il manquait de vin. Apparemment, tout allait bien, frères et sœurs. Mais maintenant, ils n'ont plus de vin. Et je parlais tout à l'heure de mes lunettes que j'ai égarées subitement, avec toute la neige, etc. Aujourd'hui, je me retrouve un peu mal pris. Mais avant d'avoir égaré mes lunettes, je les avais. Je ne savais pas si j'allais les égarer. Subitement, j'ai demandé à ma femme, à mes enfants, qui a mes lunettes, qui a vu mes lunettes. Je n'ai plus de lunettes maintenant. Alors, nous comprenons que ici, les gens font face à une situation, vous connaissez l'histoire déjà, je le sais, à une situation intenable. Mais nous comprenons aussi que la vie est faite comme cela, frères et sœurs, pas vrai? La vie est faite comme cela. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus d'argent. Tu n'as plus de vin. Tu n'as plus d'argent. Ils n'ont plus d'amis. Tu n'as plus d'amis. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de relations. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de job. Tu n'as plus d'emploi. Ils n'ont plus de vin. Ils en avaient auparavant, quelques heures auparavant. Ils en avaient avant-hier. Ils en avaient. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de sommeil. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de santé. Tu en avais avant. Subitement, tu n'en as pas. La vie est ainsi faite, mon frère. La vie est ainsi faite, ma sœur. Et chaque jour de l'existence doit être vécu en fonction de cette réalité-là, de cette possibilité-là, qu'il n'y en ait plus de ce que tu avais avant. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus d'écoute. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de compagne. Ils n'ont plus de vin, tu n'as plus d'amis. Ils n'ont plus de vin, tu n'as plus de fiancé, tu n'as plus d'amoureux, tu n'as plus d'amoureuse. Ils n'ont plus de vin, tu n'as plus de force, Tu n'as plus d'énergie. Maintenant, pour faire 3 pas, ça vous prend quoi? 1 heure, 60 minutes? Et avant, ça te prenait une fraction, 1 millième de seconde. Mais avant, tu en avais. Ils n'ont plus de vin. Toi, tu n'as plus de courage. Ils n'ont plus de vin, les mariés à Cana en Galilée. Tu n'as plus de secours. Ils n'ont plus de vin. Tu n'as plus de recours. Ils n'ont plus de vin, nous dit le texte. Le vin s'épuise. Les théologiens ont beaucoup creusé pour parvenir à s'expliquer pourquoi le vin en est-il venu à manquer. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils ont sorti que des hypothèses. Est-ce que c'est parce que le Seigneur est venu avec ses disciples, il était juste lui-même invité, et il s'est fait accompagner des disciples? Est-ce que c'est parce que les gens ont mal calculé? Ils ont bien compté, mais ils ont mal calculé. Il y a toutes sortes de questions qui se posent pour tenter d'élucider la raison pour laquelle le vin est venu à en manquer. Le texte ne nous dit pas pourquoi. Nous ne savons pas conséquent pas. Mais nous en connaissons la conséquence. Si nous ne savons pas pourquoi il manquait de vin, mais nous connaissons la conséquence. Qu'est-ce que ça fait dans un mariage de ce genre? À cette époque-là, la chose la plus importante pour les gens, un mariage, un festin de noces, un festin de mariage, nous savons ce que ça a comme conséquence, ou devait avoir, ou allait avoir comme conséquence, c'est que toute une famille va se retrouver dans un énorme embarras. La famille va se retrouver dans la honte, dans le pétrin, frères et sœurs. Le couple ne pourra pas marcher dans la communauté si ce manque de vin devait persister. Ce serait la honte, la tête baissée. Et il y aurait probablement un conflit dans cette famille. Les parents du jeune homme, du marié, pourraient intenter un procès contre le jeune homme. Hein, il y aurait division, possiblement, dans la famille. La grâce de Dieu peut tout. Mais techniquement, c'est ce que ces gens-là risquaient. C'est ce qui pourrait arriver dans leur vie après, dans leur vie à deux. Parce qu'à leur époque, c'est le père, l'homme, le marié, le jeune homme, contrairement à aujourd'hui, qui était responsable d'alimenter le festin en nourriture et en boisson. Était responsable de la réception. Ils auraient pu intenter un procès pour la honte qui couvrirait la jeune femme. Mais savez-vous quoi? Tandis que le vin en est venu à en manquer, il y avait de l'espoir ce jour-là, parce que Jésus était dans le mariage. Jésus était présent. Il y avait de l'espoir. Jésus ne laissera pas ce couple couvert par la honte. Il va se retrousser les manches. Il va manifester sa gloire pour tirer ces familles-là de l'embarras du pétrin, frères et sœurs. A remarqué que Marie en était convaincue. Marie le savait. Et nous comprenons cela lorsque nous voyons le texte nous montre que Marie est consciente de la difficulté. Elle est consciente du problème. Elle est consciente de la gravité du problème, frères et sœurs. Et lorsque elle se tourne vers le Sauveur, vers son fils, pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Ça va, frères et sœurs? Quand toi et moi, nous n'avons plus de vin, vous savez ce que Jésus fait? La Marie a intercédé pour le couple, pour les familles. Quand toi et moi, nous n'avons plus de vin, c'est Jésus qui chuchote ça à l'oreille du Dieu le Père. pour lui dire, cette famille-là n'a plus d'amis, n'a plus de vin, n'a plus d'argent. Jésus qui intercède pour nous aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, très théologique, très technique, où le Seigneur dit à sa mère, écoutez bien, mon heure n'est pas encore venue, et je vous dirai en passant qu'il parle de l'heure de sa mort. Chaque fois que Saint Jean parle de l'heure du Seigneur qui n'est pas encore venue, il fait allusion à l'heure de la mort du Sauveur. On va et transcender cette partie-là. Mais malgré que Marie s'est fait reprise par le Sauveur, parce qu'il ne connaît pas l'agenda spirituel du Sauveur, et nous voyons que Marie n'a pas lâché prise. Elle continue de manifester. Elle continue de manifester sa confiance dans le Seigneur. Quand elle dit aux disciples, aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas lâché prise. Vous savez pourquoi? Parce que elle sait que Jésus est un Jésus de compassion. Elle sait que Jésus est un Jésus de grâce. Elle sait que Jésus est un Jésus de gloire. Faites tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui ont entendu la remarque que Jésus a faite à Marie. Je ne sais pas si cette remarque a été faite en aparté. Mais nous savons que la remarque a été faite. Et Marie, de continuer à manifester sa foi persévérante en son fils, en disant à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. En d'autres termes, vous allez voir bientôt la manifestation de la gloire de Dieu, à condition que vous fassiez tout ce qu'il vous dit de faire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Vous allez voir sa gloire. Et ce que la suite du texte nous montre, c'est que Jésus a honoré la foi de Marie. Verset 7, il appelle les serviteurs, il leur dit, remplissez ces vases. Je parlais la fois passée de la gloire de Dieu par rapport à ce qui se manifeste par rapport à ses œuvres, de la gloire de Dieu qui se manifeste par rapport à sa présence ressentie. Et j'ai parlé aussi de la gloire de Dieu qui se manifeste par sa parole. Regardez bien ici. Tout part, l'histoire va trouver un dénouement heureux à partir d'une parole de Jésus. Est-ce que ça va là? Nous voyons ici le début de la manifestation de la gloire de Jésus. J'ai prêché dimanche dernier pour dire que les œuvres de Jésus sont intimement liées à ses paroles. Il a dit, Lazare, sort. Il a manifesté sa gloire en parlant. Et l'œuvre de résurrection s'est produite. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Voilà. Il a dit à la tempête, calme-toi, tais-toi. Il a parlé et la tempête s'est tue. La réalité est manifeste. Mais ça vient de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Tu verras la gloire de Dieu à condition que tu fais des choses que Dieu va te dire de faire qui sont à tes yeux, selon votre logique, votre compréhension souvent, eh bien, qui n'ont aucun sens. Remplissez d'eau ces vases. Si c'était moi, aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation logique, et très, très, très humaine, centrée sur les hommes, dans le sens de centrée sur les hommes. Si c'était aujourd'hui, les gens pourraient dire à Jésus, mais Seigneur, on vous parle de vin qui manque. Comment ça se fait que tu nous dis de remplir ces vases? Avez-vous compris de quoi on parle, Seigneur? On parle de vin, c'est-tu clair? Alors, arrêtez de nous dire de remplir des vases. Et plusieurs d'entre nous n'auraient peut-être pas rempli ces vases. Pas vrai, frères et sœurs? Mais le salut du couple vient du fait qu'ils ont, les serviteurs ont accepté de remplir ces terres. Dieu vous dit qu'il va vous élever. Mais voici le chemin dans lequel tu dois marcher. Voici la décision qu'il faut prendre. Voici ce qu'il faut que tu abandonnes. Voici ce qu'il faut que tu quittes. Voici le cordon qu'il faut que tu coupes. Tu dis que tu ne veux pas couper le cordon. Mais tu restes à ta place. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Les serviteurs l'ont fait. Ils l'ont fait. Le verset 7 dit, non seulement ils ont accepté de mettre en application cette instruction insensée selon les hommes, mais, c'est extraordinaire, ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Jusqu'au bord signifie ça, vous le savez déjà. Ça, c'est les vases, les jarres de pierre. Puis ils ont rempli jusque-là. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Ils l'ont rempli. Et Jésus, le texte ne nous dit pas si Jésus leur a demandé de les remplir jusqu'au bord. En lisant le texte, nous voyons, il dit, remplissez d'eau ces vases. Mais, même s'il ne l'a pas demandé, Jésus a vu que les serviteurs les ont remplis jusqu'au bord. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Assurément, Jésus n'a rien dit. Il a procédé quand même. Vous savez ce que ça veut dire? À mesure que l'eau est en quantité, c'est à mesure que le vin que Jésus va donner va être en quantité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Les serviteurs sont intelligents. Mais Jésus n'a pas protesté. Vous savez pourquoi il n'a pas protesté? Parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'abondance. Les recherches effectuées par rapport à ces jarres ou bien à ces vases indiquent que, parce que Jean mentionne que chaque jarre ou bien chaque vase, chaque récipient a une capacité de 3 ou 4 mesures. Quand Jean dit 3 ou 4 mesures, il n'est pas en train de douter. Il veut dire qu'il y en a qui ont une capacité de 4 mesures et d'autres qui ont une capacité de 3 mesures. Les recherches effectuées montrent que pour chaque jarre, c'est pour chaque mesure, c'est 40 litres d'eau pour chaque mesure. Donc, si pour un vase de 4 mesure, ça fait 4 fois 4, 16. Je suis prof de primaire, de mathématiques, donc ça fait, je ne me trompe pas si je dis que ça fait 160 litres. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Donc, pour 6 jars, on est autour de 6 fois 1, 6, autour de 700 et quelques litres de vin. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Oh mon Dieu, quel Dieu que nous servons, frères et sœurs. En sorte que l'oratoire, non seulement la famille va avoir du vin, mais elle va avoir du vin en abondance. Quels sont tes manques aujourd'hui? Quels sont tes manques aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait défaut? Qu'est-ce qui parvient à manquer dans ta vie, dans ta famille, dans ton église? Dieu est capable d'en faire la provision. Il est capable de faire de la provision. Et quand Jésus donne, il donne généreusement. Qu'est-ce que ce texte et d'autres textes encore nous montrent? Pensons au miracle des pains et des poissons. Pensons à cette prédication que Pierre a prêchée et 3000 âmes sont venues au salut. Lorsque Jésus se lève pour donner, il va donner en abondance. Et frères et sœurs, Jésus donne gros à ces gens-là. Et vous allez voir quelque chose que vous avez peut-être déjà découvert à travers ce texte. Une fois que les vases sont remplis, verset 8, Jésus demande aux serviteurs, voici une deuxième réalité quand Jésus donne. Notez cela. Quand Jésus donne, il donne beaucoup, il donne généreusement, il donne en surabondance. N'oubliez, notez cela. Mais quand Jésus donne, vous allez voir que, à travers le verset 8, une autre réalité quand Jésus donne. Une fois que les vases sont remplis, Jésus dit aux serviteurs, puisez maintenant du vin et apportez-en à l'ordonnateur du repas. La personne qui est responsable du repas, c'est lui l'ordonnateur. Et l'ordonnateur du repas, un bon ordonnateur, un bon serviteur, ce qu'il fait pour s'assurer que le vin est approprié, il goûte le vin avant. Hein, le texte dit, il le goûte. Parce que si un vin de mauvaise qualité est servi, eh bien, la responsabilité lui sera attribuée. Donc, il s'assure de goûter le vin avant d'en ordonner la distribution. Ça va, frères et sœurs? Il en a goûté, nous dit le texte. Et au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle le jeune homme. Voyez-vous, tantôt, je vous avais dit, c'est le jeune homme qui était responsable à l'époque de la réception du mariage. Voilà pourquoi l'ordonnateur, ce n'est pas la femme qu'il appelle. Aujourd'hui, peut-être qu'on appelait la femme, la sœur. Hein? Et ici, on appelle le frère, l'homme, l'époux. L'ordonnateur l'appelle pour lui dire ce que vous avez lu tout à l'heure. Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'après. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Quand Jésus donne, non seulement il donne en abondance, mais il donne des choses de qualité, frères et sœurs. L'ordonnateur doit être un ordonnateur de métier. Il doit s'y connaître. Vous savez ce que nous pouvons lire entre les lignes ici? C'est que c'est la première fois que l'ordonnateur, dans toute sa carrière, a bu un vin d'une aussi grande qualité, frères et sœurs. Quand Jésus donne, il donne en abondance, en surabondance, et il donne le meilleur, frères et sœurs. Ce vin donné par le Seigneur ne provient pas du processus naturel, habituel de fermentation et des raisins, des vignes, de la terre et du soleil. Le Messie de gloire, le Dieu de gloire, le divin enfant de Dieu, fils de Dieu, eh bien, il n'est pas lié par ces choses. Quand Dieu veut agir, il n'est pas lié par les circonstances. Dieu est libre de ses mouvements, frères et sœurs. L'oratoire et les visiteurs, j'aimerais que vous réalisiez, que vous reconnaissiez que ce que Jésus donne est toujours le meilleur, frères et sœurs. Quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez à la surface des choses, quoi que vous voyez en analysant les circonstances, si c'est Jésus qui donne quelque chose, c'est le meilleur que vous avez, mon frère. Si c'est Jésus qui t'a donné cette femme-là, c'est la meilleure que vous avez, mon frère. Si c'est Jésus qui t'a donné ce mari-là, c'est le meilleur que vous avez, ma sœur. Jésus donne toujours. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux jeunes, à nos amis, eh bien, de se fier à Jésus, de ne pas courir choisir, de laisser Jésus choisir pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Parce que si c'est Jésus qui choisit, il va te donner le meilleur, mon frère. C'est le meilleur que Jésus donne. Pourquoi? Pourquoi Jésus donne-t-il toujours le meilleur? Mais parce qu'il est le meilleur. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il est le meilleur, il donne toujours le meilleur. Le meilleur ne peut venir que du meilleur. Et le pire ne peut venir que du pire. Satan donne le pire parce que Satan est le pire. Jésus donne le meilleur parce qu'il est le meilleur. Reconnaissez aussi que Jésus donne toujours plus. Si c'est toi qui choisis, tu vas choisir 2, 3, 4 parce que tu es limité dans ta finitude. Mais Jésus est infini. Si c'est lui qui va te choisir, il va te donner un nombre infini, frères et sœurs. Laissez Jésus diriger ta vie. Autrement dit, si vous avez des embarras de famille aujourd'hui, des situations qui peuvent menacer votre fierté, des situations qui vous font sentir que vous êtes au bord du gouffre, au bord de la honte, comme ce couple-là, des faiblesses. Si vous avez aujourd'hui des douleurs, si vous avez même des péchés, si vous avez même des culpabilités, des ennuis, apportez-les tous au pied de la croix de Jésus. Il va s'en charger. Mais, en ce faisant, vous devez le faire avec confiance et avec soumission. Quand il vous dit de remplir ses vases, remplissez-les. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et une autre chose que vous devez faire, c'est d'accepter la proportionnalité ne dépend pas de vous. La proportionnalité, la quantité dépend de Jésus. Acceptez aussi, quand vous décidez de déposer les choses entre les mains de Jésus, acceptez que le timing n'est pas de votre ressort. Le timing n'est pas de votre responsabilité. Acceptez que le qui, le quoi, le comment n'est pas ou ne sont pas de votre ressort. Quand tu déposes les choses entre les mains de Jésus, déposez-les lui au complet, frères et sœurs. C'est alors que tu verras la gloire de Jésus se manifester. C'est ce que j'ai remarqué dans ce passage. Si le chemin par lequel tu veux passer n'est pas le chemin par lequel Jésus veut passer, acceptez cela, mon frère. Acceptez cela, famille. Acceptez cela, ma sœur. Acceptez cela, madame. Acceptez cela, monsieur. Votre responsabilité en tant qu'église, votre responsabilité en tant que famille, votre responsabilité en tant que leader, votre responsabilité en tant que chrétien, votre responsabilité en tant qu'ouvrier est de tout faire quand Jésus vous dit de le faire. Jésus était là. Il était présent à ses noces, à ce festin, à cette fête. Il était là. Les mariés se sont révélés intelligents. Ils ont su inviter Jésus. C'est la raison, c'est la seule raison pour laquelle ils ont pu éviter la catastrophe. Voulez-vous éviter la catastrophe dans ta vie? Invitez Jésus dans ta vie. Invitez Jésus. Quand Jésus est là à l'oratoire, le vin peut bien parvenir à en manquer. Avez-vous remarqué cela? Où sont ceux qui disent que quand Jésus est là, il n'y a pas de problème? Mais oui, il y en avait. Jésus était là. Il mangeait, il buvait. Et le vin a manqué pareil. Ah, ça coupe court à l'évangile de la prospérité, frères et sœurs, pas vrai? Ça vient lessiver, laver l'évangile de la prospérité. Non, non, il peut y avoir des problèmes. C'est lui qui a dit, vous aurez des problèmes dans ce monde. Voilà, voilà. Hé, hey, regardez bien. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas dans ton église qu'il y a des problèmes dans ton église. Ça va là? Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas dans ta famille qu'il y a des problèmes dans ta famille. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas dans tes finances qu'il peut ne pas y avoir de problème dans tes finances. Il peut y en avoir. Ce texte nous montre qu'il peut y en avoir. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus est en contrôle des difficultés. La réalité des difficultés peut nous frapper. Nous sommes encore dans ce monde de péché. Mais Jésus est en contrôle des difficultés, frères et sœurs. Voilà pourquoi, quand les difficultés arrivent dans la famille, arrêtons de dire, c'est toi, madame, c'est toi, monsieur, c'est les enfants qui en sont responsables. Regardez, prions de préférence. Ne brisons pas notre unité dans la prière. Parce que Jésus peut être là, puis il en manque. Redoublons d'efforts dans la prière. Redoublons d'efforts dans la persévérance, dans les paroles de Dieu. Ce n'est pas le temps de se chicaner. Pour dire c'est à cause de toi, c'est André, c'est Pierre, c'est Jacques. Non. Le texte ne dit pas c'est à cause de personne. Le texte dit que le vin parvient à en manquer. Et Marie a fait une intercession et le vin en est venu en abondance. On n'a pas vu de culpabilisation réciproque. L'un comme Adam a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. L'un a tenté de jeter la responsabilité sur l'autre. Non, non. Marie a prié. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Dans le festin de votre vie, invitez Jésus. Ça va là? Dans le festin de vos finances, invitez Jésus.
Dans le festin de vos relations, invitez Jésus. Dans le festin de la résolution de vos conflits, de vos problèmes, invitez Jésus. Dans le festin de votre église, invitez Jésus. Dans le festin de votre mariage, invitez Jésus. Invitez Jésus. C'est chaque jour que je me lève. Je dis au Seigneur, donne-moi chaque jour davantage de ton vin. Le vin de ta paix, le vin de ta joie, le vin de ton salut, le vin de ta sécurité, le vin de ta sérénité. Le vin, donne-moi ton vin, remplis-moi de ton vin. Je dis, Seigneur, le vin que tu me donnes, je sais qu'il est un vin précieux, il est le meilleur. Ton vin, Seigneur, tu ne le fais suivre d'aucun chagrin. Donne-moi ton vin. Remplis-moi de ton vin. Ton vin est béni. Remplis-moi de ton vin. J'ai dit, Seigneur, j'ai passé 22 ans de ma vie. 22 ans, hein? Beaucoup. Je me suis baptisé à 14 ans. Et après, je suis allé vivre ma vie dans le monde. J'ai passé 22 ans à boire du mauvais vin du monde. C'est ce que je dis, c'est ma prière quotidienne au Seigneur. Du vin sans consistance, du vin non clarifié, du vin impur donc. J'ai dit, Seigneur, j'ai passé 22 ans de ma vie à boire dans le monde du vin dilué, du vin contrefait. J'ai dit, Seigneur, n'eût été ta glorieuse bonté, ta glorieuse miséricorde, j'en serai encore et encore, et peut-être toujours, à boire du vin de Satan. J'ai dit, Seigneur, je pourrais continuer à boire du vin de la débauche, du vin de la prostitution, du vin de la drogue, du vin de la prison, et j'en passe. N'eût été ta bonté. Mais comme tu m'as extirpé du gouffre du péché, tu m'as donné ton vin à boire, donne-moi chaque jour davantage de ce vin, de peur qu'il n'y ait de brèche dans ma vie, pour que le malin réintroduise, réinjecte son vieux vin dans ma vie. Ça va, frères et sœurs? Le Dieu que nous servons, il donne le meilleur. Mais que dit le verset 11? Doit tirer le sujet du jour, c'est-à-dire la réalité de la gloire de Dieu. Que dit le verset 11? Il, en parlant de Jésus, manifesta sa gloire. C'est-à-dire qu'il démontre sa divinité. Qu'est-ce qu'on remarque? Malgré le fait que Jésus a manifesté sa gloire, Jésus n'est pas retourné avec des serviteurs. Il est retourné avec ses disciples. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne de ceux qui étaient là, en tout cas des serviteurs, qui ont vu la manifestation de la gloire de Jésus. Ils n'ont pas vu. Ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas décelé en dessous du miracle ce que précisément Jésus voulait révéler, c'est-à-dire sa gloire. Ils ont laissé la substance passer, frères et sœurs. Ce qui est arrivé aux ces gens-là, c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Ça arrive. Il y a toujours une foule, une majorité peut-être dans certains cas, qui vont voir la gloire de Jésus manifestée et qui vont refuser de croire à Jésus suite à la manifestation de sa gloire. Mais il y a toujours un faible reste pour croire à cette réalité-là. C'est ce que le texte nous dit. Les disciples ont vu la manifestation de la gloire de Jésus et ils ont cru en lui. Il est vrai, ils n'ont pas vu toute la plénitude de la gloire de Jésus dans son éclat, dans sa magnificence. J'ai dit dimanche passé, vous n'étiez pas là, que Jean nous dit que Jésus ne sera glorifié qu'à partir de la croix. Mais ils ont vu la gloire de Jésus. Mais, j'achève. Ce n'est pas tout ce que ce texte nous enseignait, que Jésus donne en abondance du bon vin. Il donne d'un vin de qualité, Le texte est là pour nous enseigner également que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. En donnant du vin à profusion à Cana en Galilée, Jésus est en train de dire à des disciples, en particulier aux Juifs qui étaient là, ces vases dont vous vous serviez pour votre purification extérieure, avez-vous remarqué que ce sont ces vases que Jésus a utilisés? Vous avez remarqué cela? Les vases que vous utilisez pour votre purification externe, je vais donner quelque chose à partir de ces mêmes vases qui va symboliser mon sang qui sera versé pour toi à la croix du calvaire, à Golgotha. Jésus est en train de leur dire que la prophétie d'Ésaïe 25, verset 6 à 9 est accomplie. Je donne ce vin en symbolique de mon sang qui sera versé. Voilà pourquoi le Christ appellera son sang le vin. Matthieu 14, verset 23 à 4. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Il parlait de quoi selon vous? Il parlait du vin. Ça va, frères et sœurs? On va faire un petit peu de théologie là, d'accord? Et l'oratoire, écoutez bien. Que dit Ésaïe 25, verset 6 à 8, que le pasteur dit que Jésus a accompli, ou alors prophétie dont il amorce l'accomplissement. Que dit Ésaïe 25? Ésaïe 25, on achève là, on va faire un peu d'études là. Que dit Ésaïe 25? L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mer succulente. Festin. Un festin de vin. En étiquette, quand on parle de vin vieux, on parle de vin de qualité. Je connais ça un peu. De vin vieux. Et quel vin l'ordonnateur a dit que Jésus a donné? Bâton de frères et sœurs, le meilleur. L'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe est amorcé. De mets succulents pleins de moelle, de vin vieux une deuxième fois, de vin clarifié. Vin clarifié à vin filtré. Il n'y a pas de substance à la surface. Il n'y a pas de paille là-dedans, autrement dit. Ça va là, frères et sœurs? Mais ce n'est pas tout ce que Ésaïe dit, l'oratoire. Ésaïe ne parle pas seulement de celui qui ne dit pas seulement que celui qui viendra donnera du vin en abondance et du bon vin. Il dit que celui qui viendra donnera également la vie à la place de la mort. Il a déjà tiré à la mort. La mort qui nous fait pleurer aujourd'hui. Tellement. Verset 7, Régis. Et sur cette montagne, il a néanti le voile qui voile tous les peuples. Quel est le voile qui voile tous les peuples? Mais le voile de la mort. Le linceul dans lequel on a ce morceau, cette pièce d'étoffe dans laquelle on ensevelit les morts. Mais ça nous aurait suffi. Mais le Saint-Esprit ne se contente pas de nous parler seulement de voile qui enveloppe tous les peuples. Il nous parlera au verset 9, il dira, et il anéantit la mort pour tout. Quelqu'un peut m'objecter en disant, oui mais pasteur, je comprends ta théologie biblique, mais l'histoire des noces de Cana en Galilée ne parle pas de mort. Vous parlez de mort dans la prophétie d'Isaïe. Je conviens. Regardons Jean chapitre 4. Regardons Jean chapitre 4. C'est ce qu'on appelle prêcher l'évangile à partir d'une approche de théologie biblique. Regardons Jean chapitre 4, verset 46. Vous allez voir. J'en conviens avec vous. Le texte dit, verset 46. Jean chapitre 4, verset 46. À continuer. Peut-être jusqu'à 52. Jésus revint. Où ça l'oratoire? À Cana en Galilée. Quel Cana en Galilée? Comme si ce n'était pas clair pour nous. Le Saint-Esprit ajoute, là où il avait changé l'eau en il va compléter, il est revenu pour compléter les signes qu'il a donnés de l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, qui mentionne du vin en abondance, de bon vin, mais il va donner la vie tout, toujours à Cana en Galilée. Et vous connaissez l'histoire, l'officier est venu le voir pour lui dire que son enfant est malade. Toujours à Capernaum, bien entendu, mais tout près. Capernaum est tout près de Cana. Et Jésus va lui dire, regardez bien. Après des discussions, Jésus va dire, va, ton fils vit. C'est lui qui avait dit que son fils était près de mourir. Donc Jésus a accompli la deuxième composante de la prophétie d'Ésaïe en donnant la vie à l'humanité. Mais ce n'est pas juste ce que Esaïe dit. Esaïe dit à tous les peuples de la terre, pas juste aux Juifs. Quelqu'un peut nous prendre à défaut.
Mais oui, il l'a fait. Parce que le monsieur, l'officier qui est venu le voir, ce n'est pas un Juif, c'est un officier romain. Ça va là, frères et sœurs? Donc la prophétie est complète.
En Jésus, par son sang, nous avons la vie, nous avons la liberté, nous avons la paix, la joie, le salut en abondance. Et si vous lisez Apocalypse 19, Pasteur Pierre a lu ça pour nous l'autre jour, on l'a lu dimanche, et versets 6 à 9, autour, si vous lisez Apocalypse 21, versets 9 à 10, vous t'apprenez un pile bagaille encore. Vous verriez beaucoup d'autres choses. Jean a continué à raconter l'histoire. Vous savez quelle histoire? L'histoire de notre glorification future. Il va montrer comment l'Église va rencontrer son mari, son époux, dans la joie, dans la paix éternelle, dans la félicité éternelle. J'ai dit que la gloire de Dieu est en nous. Nous avons commencé à être glorifiés. Nous le serons davantage au jour du Christ. En attendant, laissons briller la gloire de Jésus dans notre vie. Quand Jésus se révèle, il se révèle pour convaincre les gens de qui il est et de ses œuvres. Ne soyons pas lents à saisir les révélations de Jésus. Marchons dans la crainte du Seigneur. Glorifions le Seigneur en retour, lui qui est le Dieu de gloire. C'est le défi pour vous et moi aujourd'hui. Les temps sont difficiles, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Nous pouvons glorifier Dieu dans ce Montréal. Si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Joseph ont pu glorifier Dieu dans leur ville, dans leur pays d'antan, nous pouvons glorifier Dieu quand même. Nous tomberons, mais nous nous relèverons par la grâce du Seigneur. Ça va, frères et sœurs? Glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie. Qu'il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs.